prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que si tu t'es donné tant de mal à ce que ta parole soit connue dans cette humanité, si tu as pendant plus de 1500 ans parlé à travers les hommes, poussé les hommes par le Saint-Esprit à écrire, à parler, à dire des choses, si tu as voulu que cette compulsion, cette compilation aboutisse à un canon qui fasse la Bible d'aujourd'hui, Seigneur, tout ça n'est pas par hasard. C'est que tu voulais que les Écritures nous servent, nous soient utiles pour enseigner, corriger, convaincre, pour parfois rectifier, instruire dans la justice. Tu voulais que cette parole inspirée soit là pour notre utilité et pour notre croissance. Alors accorde-nous cette grâce ce matin de, encore une fois, ouvrir ta parole et la lire et la découvrir encore. Au nom de Jésus. Amen. 2 Pierre 3, on va lire tout le chapitre, c'est court, hein. Rassurez-vous, on va pas faire un an là-dessus, c'est juste un petit texte qui n'est pas très long, et nous allons le parcourir. Alors c'est donc Pierre qui le dit, chapitre 3, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, mais où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les écrits, toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Une lettre très intime. Je pense que on n'a pas besoin de faire trop de commentaires, puisque on voit bien que, voilà, c'est un homme qui va à la conclusion, qui arrive à la conclusion de sa lettre, et même peut-être de son parcours, et qui essaye de transmettre des choses qui lui tiennent encore à cœur. Les paroles d'un homme qui va à la fin, qui termine un parcours, qui est à la fin de son parcours, sont des paroles importantes, parce que ça résume à la fois toutes les choses qu'il a apprises sur la route, les joies, les peines, les déceptions, mais ça ouvre aussi les perspectives pour ceux qui écoutent, de sorte qu'on a vraiment intérêt à écouter celui qui se donne le mal alors qu'il est à la fin de son parcours, qui se donne le mal de s'exprimer. Nous avions dit déjà que pour le premier chapitre de la deuxième lettre ici, que Pierre voulait donner les fondements, rappeler les fondements de la foi, rappeler que nous avons tout reçu, que nous avions l'équipement suffisant et nécessaire pour pouvoir aller de l'avant dans notre vie, que quelque part, nous ne sommes pas démunis avec Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que de ce que nous avons, nous puissions le capitaliser, que nous faisions tout ce qu'il faut pour que le capital reçu ne soit pas perdu, un peu comme on vous donnerait de l'argent en vous disant, voilà, ça c'est pour vous. Même si vous devez en faire ce que vous voulez, mais le bon sens, d'ailleurs dans votre propre intérêt, ne serait pas que vous dilapidiez ce que vous avez, mais que vous l'utilisiez de manière à le faire grandir, avoir un peu plus, ou en tout cas se donner les moyens de pouvoir faire le maximum des choses possibles. Le chapitre 2, par contre, là, il aborde la question de quelque chose qui l'inquiète, de la survenance de l'intrusion des faux docteurs, des faux enseignements. Et là, il exprime une inquiétude en donnant, bien sûr, les clés pour à la fois identifier les faux docteurs, mais aussi découvrir leurs caractéristiques pour pouvoir déjouer leurs manœuvres. Ici, c'est ça, le troisième chapitre. Il va aborder encore un peu comme une synthèse de tout ce qu'il avait dit auparavant. Il va ici dire un peu quels sont les moyens pour nous de vivre dans un monde comme celui-ci, qui est un monde qui va en fait partir à sa perte. Il le dit clairement. Qu'on le veuille ou non, ce monde va disparaître. Il y aura une fin. Il y aura une fin. Nous le savons, nous les chrétiens. Même si nous pouvons avoir des perspectives différentes en ce qui concerne la conception de la fin des temps. Mais une chose est certaine, d'après la Bible, d'après ce texte aussi, il y a une fin. Un jour, la terre cessera. Cette vie, dans cette modalité dans laquelle nous sommes, cessera. Et donc, l'enjeu consiste à savoir comment vivre ces derniers temps, comment être avec le Seigneur, s'attacher à lui. En quelque sorte, il propose une espèce d'antidote face à ce monde. Comment ce monde est décrit? Ça, c'est ce qu'il commence par cela, au verset 3. Après avoir fait remarquer que, bien sûr, il a écrit déjà d'autres lettres et que son but était toujours de rappeler qu'il voulait éveiller en nous, par des avertissements, que nous puissions utiliser notre foi d'une manière saine, que nous la vivions d'une manière vraie. Eh bien, il dit donc au verset 3, que ce monde sera de plus en plus caractérisé par des moqueurs, des gens qui vont se moquer de l'évangile, qui vont le railler, qui vont dire, mais oui, mais depuis que vous dites qu'il y a la fin des temps, mais alors, il est où? Et c'est vrai que nous nous sommes parfois exposés, enfin, je dis nous, c'est la chrétienté en général, quand vous voyez tous ces mouvements, que ce soit le mouvement au niveau de Armstrong, que ce soit au niveau des témoins de Jéhovah, au niveau des Branhamistes, et au niveau de tous les autres mouvements qui ont tellement annoncé la fin des temps. J'ai essayé de comptabiliser, les témoins de Jéhovah doivent avoir annoncé la fin des temps une dizaine de fois, peut-être 12 fois. Ça n'a jamais eu lieu. Alors évidemment, les non-chrétiens, eh bien, ça les fait rire. Hein. Ça les fait rire et ça les fait considérer que les chrétiens, c'est pas sérieux ces gens-là. Les Branhamistes l'ont fait, je crois, 4 ou 5 fois. Même les Mormons ont fait. Et même les Mormons ont déclaré qu'il y aurait la fin des temps. Et ça n'a jamais eu lieu. Alors c'est là que les moqueurs vont dire, mais alors, rien ne change. Vous dites des trucs qui n'ont même pas lieu. Et quoi? Ce monde, il est comment? Est-ce que vraiment il changera? Vous êtes donc des menteurs. Et dans ce texte, l'apôtre donne la réponse. La réponse par rapport à cette objection des moqueurs. Ben oui, mais depuis que le monde existe, il a toujours été là. Il n'y a rien qui a changé. Qu'est-ce que vous racontez avec votre fin du monde? Alors, Pierre va répondre en deux temps. D'abord, il va leur expliquer que le monde dans lequel nous sommes n'est pas le même que celui de la création. À la création, la configuration du monde n'est plus la même. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le déluge. Le monde a été détruit par l'eau. Et donc, il y a eu un autre monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu accomplit son jugement. Dieu fait toujours ce qu'il avertit. Quand il a averti, il met à exécution ses avertissements. La preuve, c'est que avant, il y avait un monde et il y a eu le déluge. Et le déluge a été le jugement de Dieu par rapport aux hommes de cette époque-là, à cause de la corruption, à cause du péché qui s'était tellement aggravé dans cette société de l'époque. Ça, c'est la première réponse, ça, c'est le verset 5. Tu peux remonter le verset 5, Christophe? Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. C'était Dieu qui avait créé cela, par sa parole. Et que, verset 6, que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Donc, première réponse, vous ne vous rendez pas compte, ça s'est déjà passé. Ce que nous disons a déjà eu lieu dans le passé, donc, faites gaffe, ça peut encore avoir lieu. Et deuxième réponse, il dit, ce monde, même si vous ne le savez pas, la même parole qui avait généré le monde et qui avait ordonné la destruction de ce monde-là, la même parole, aujourd'hui, affirme que ce monde va être détruit. Il est réservé pour le jugement, pour le feu du jugement. Donc, d'une certaine manière, Dieu ne laissera pas les moqueurs s'amuser. Dieu ne laissera pas éternellement s'amuser. Vous imaginez un peu la scène avec les gens au temps de Noé. Ça devait être bien marrant, non? Ils se moquaient de lui. Il disait, mais Noé, t'es complètement fou. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? D'abord, tu dis quoi? Il y a de l'eau. Mais attends, il y a de l'eau? Il y a de l'eau? Et l'eau arrivera, il y aura plein d'eau. Mais par où, Noé? Nous sommes dans un endroit où on voit presque pas de pluie. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Et j'imagine que lorsque tous ces êtres qui devaient rentrer dans l'arche rentrent et que le Seigneur ferme les portes, j'imagine que les premières gouttes d'eau, les gens commencent à se dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'eau? Ah! Et puis tout d'un coup, gling, gling, gling dans la tête, ah! Noé avait dit que, mais non, c'est une blague, c'est pas possible, rassurez-vous les gars, ça va pas terminer, c'est juste une petite rosée, ça va faire ça. Et puis, l'eau commence à couler, l'eau commence à venir dans tous les sens, et là on se dit, ah! Peut-être que Noé avait peut-être raison. Courons un peu vite, allons demander, Noé, ouvre la porte! Enfin bon, je caricature un truc qu'on m'a raconté à l'école du dimanche, donc voilà. Je suis comme ça. Et donc avec ça, les gens se sont rendus compte qu'ils se sont moqués. Et que voilà. C'est une chose qu'on peut rappeler aux gens du monde aujourd'hui, quand ils se moquent de Dieu. Qu'il y en a eu qui se sont moqués aussi avant, jusqu'au moment où Dieu a accompli son projet. Et là, la moquerie a cessé. Le temps pour Dieu n'est pas le même que le temps pour l'homme. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans, 1000 ans, c'est comme un jour. Dieu est en dehors du temps humain. Nous avons besoin du temps, nous. On a besoin du temps pour faire des choses. Nous vivons avec des séquences. Nous dépendons de ce temps. Mais Dieu est en dehors du temps. Et donc pour lui, il peut faire les choses comme il veut, quand il veut, selon ses critères propres. Si Dieu donc est en dehors du temps, c'est ce que l'apôtre veut dire, c'est que si Dieu est en dehors du temps, ça veut dire qu'il tiendra promesse. Il fera exactement ce qu'il veut. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas maintenant, ici et maintenant? Pourquoi est-ce que Dieu ne vient pas faire face à la méchanceté des hommes? Même si on doit appliquer ça à nous aujourd'hui, pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas? Pourquoi depuis tout ce temps-là, d'il y a 2000 ans, Dieu n'agit pas encore jusqu'à aujourd'hui? Et ce texte donne une réponse, n'est-ce pas? Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Quelques-uns croient que Dieu dort, d'autres croient que Dieu est mort, d'autres croient que Dieu, il hésite encore, etc. Mais ce texte dit clairement, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que voulant que tous arrivent à la repentance. Le temps de la grâce, le temps du salut, le temps de la consécration, le temps de faire la paix avec Dieu. C'est ça le temps que Dieu donne. Et donc, la patience de Dieu pour régler le problème du monde selon sa promesse, cette patience, nous ne pouvons l'expliquer que parce que Dieu veut le salut de l'humanité. Il a un temps dit, ok, mon jugement, je le postpose pour permettre que le salut soit possible aujourd'hui pour les hommes. Nous aussi, mes frères, nous avons à considérer ça, à la fois pour nous dire, tiens, c'est peut-être une exhortation pour nous, pour notre vie, peut-être de se dire, je ne veux pas laisser ma vie n'importe comment. Je vais me mettre en ordre avec Dieu si je suis dans le désordre. Si je ne suis pas sur la bonne voie, je dois faire en sorte que ma vie soit une vie en conformité. Vous savez, on dit toujours souvent que les gens qui ne se fâchent pas, c'est peut-être mieux de s'entendre avec eux pendant qu'ils ne sont pas encore fâchés. C'est vrai, non? Parce que les gens qui ne se fâchent pas beaucoup, quand ils se fâchent, on ne sait pas toujours ce que ça donne comme effet. Alors peut-être que quand ils ne sont pas encore fâchés, peut-être mieux s'entendre avec eux. Et quand ils disent, écoute, je suis pas d'accord avec toi, avec ceci, je n'aime pas cela, peut-être dire, ah, ok, excuse-moi, et se mettre en ordre avec. La Bible dit, Dieu est lent à la colère. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se fâche pas. Hein. Il suffit de lire ce qui s'est passé lorsque le peuple a fait le veau d'or pour comprendre que la colère de Dieu, c'est quelque chose d'horrible. Mais peut-être nous avons, à travers un texte comme celui-ci, nous pouvons nous inviter personnellement à nous dire, quelle est ma vie? Quel est le tempo de ma vie? Quelle est la dynamique de ma vie? Est-ce que je vis une vie où je peux dire, je vis d'une manière ordonnée avec Dieu? D'une manière réconciliée avec Dieu? D'une manière, j'évite le mot, mais je peux le dire quand même, d'une manière correcte avec Dieu? Est-ce que j'avance dans tous les terrains de ma vie où il y a des faiblesses? Est-ce que je me bats contre peut-être des aspects de mon caractère qui sont peut-être difficiles, que je travaille à lisser pour que, oui, le Seigneur soit glorifié à travers mon caractère? Est-ce que de ma lecture de la Bible, est-ce que je vois un progrès. Hier dans les ateliers, moi j'animais un atelier qui s'appelait comment réussir sa vie chrétienne. Quelles sont les choses qu'on doit mettre avec soi pour que l'on puisse réussir sa vie chrétienne. Et j'ai posé la question aux ados. J'ai dit, qui lise la Bible? Quasiment les trois quarts, si pas la totalité. Ils lisent tous la Bible. Je dis, de votre lecture, pouvez-vous me dire une chose que vous avez retenue? Là, il n'y avait plus de doigts. Les doigts avaient disparu. Je dis, mais vous lisez la Bible. Mais que retenez-vous de ce que vous lisez? Pas grand-chose. Et je me suis rappelé de mon temps à moi, quand j'étais jeune et qu'on nous formait pour la lecture de la Bible, on nous obligeait à retenir par cœur les versets. Et c'est comme ça que j'ai appris. Il y a des versets qui sont, depuis ma jeunesse, dans ma tête, et parfois même des passages longs, parce qu'on nous obligeait. On disait, tu veux par exemple évangéliser quelqu'un, il y a un plan, Jean 1, 12, et ça, et ça, et ça, et ça, et tu les connais par cœur, tu n'as pas besoin d'avoir ta Bible, tu les connais, quand tu parles à quelqu'un, tu vas dire, oui, il est écrit que. Mais ça fait partie des efforts qu'on doit apprendre à faire nous-mêmes en tant que chrétiens. Apprendre à retenir des versets par cœur, apprendre à connaître les contextes bibliques, apprendre... Si on veut pousser plus loin, connaître la structure de la Bible, le message, les principaux messages. J'étais un peu triste de voir que mes ados ne faisaient pas ça. Et donc je leur ai dit, chacun à sa mesure, bien sûr, hein, il ne s'agit pas d'aller faire retenir aux gens. Mais c'est vrai que je dois avouer que, avec l'informatique aujourd'hui, avec le numérique, avec les smartphones, je pense que la mémoire, elle est foutue. Hein. Elle n'existe plus. Hein. Parce qu'attends, pourquoi est-ce que je vais retenir quelque chose qui est sur mon smartphone, hein? Jean 3, 16. Ah, car Dieu a tant aimé le monde. Oui. Je comprends, je vais retenir. Vous voyez, on a déplacé la base de données. D'abord, elle était dans notre tête avant. Maintenant, la base de données s'est déplacée dans un machin, ça, et c'est dans ce machin-là que trouve la base de données. Alors, l'homme peut volontairement devenir idiot, ignorant, abruti, pourvu que quand il a besoin, il va là-bas, il a ce qu'il veut. Et nous fonctionnons comme ça, et nous pensons que c'est bien. Mais nous nous trompons, hein. Le jour où je me retrouve dans une terre où j'ai pas de Bible, où j'ai pas de smartphone, je sais comment pour expliquer aux gens la parole de Dieu. Essayons de voir dans nos vies les choses que nous pouvons encore améliorer pour conforter notre relation avec Dieu. Et qu'ainsi, alors que nous sommes à la fin de ce temps, alors que nous sommes à la fin des temps, nous soyons prêts à faire face à ce monde moqueur. La patience donc de Dieu, elle est aussi utile pour nous aujourd'hui. Mais une chose est certaine, Dieu accomplira sa promesse. La promesse de son retour se fera. Et puisque de toute façon la terre sera détruite, puisque de toute façon indéniablement on arrivera à la fin des temps, l'apôtre donne donc quelques conseils aux chrétiens. Et c'est cela qui commence au verset 10. Ah pardon, pas au verset 10, un peu plus. Verset 11, pardon. Puisque tout cela est en voie de disparition, de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Ça, c'est le premier conseil. Veillez sur notre vie sainte. Oh, c'est beau ça. C'est très beau. Veillez sur notre vie sainte, veillez sur notre conduite, notre comportement. Notre comportement doit être saint, c'est-à-dire témoigner que nous sommes mis à part, que nous appartenons à Dieu, porter les couleurs de la grâce de Dieu. Nous étions à Louvain-la-Neuve avec un groupe de prière qui faisait le déplacement dans Louvain-la-Neuve. Et nous avions décidé d'aller prier chez un frère qui habitait à Lucaille, d'ailleurs tout près de chez Lorraine. Et nous étions en train de prier là. Nous avions nos enfants en bas. Bon, moi, j'avais pas encore d'enfants. J'étais même pas marié. Donc, les autres frères avaient leurs enfants qui sont restés en bas, qui ont demandé, est-ce qu'on peut aller jouer en bas? Ok, les enfants sont descendus en bas jouer. Et nous, on priait dans la maison de ce frère. On a fait ça 2-3 fois. Et puis, un beau jour, on voit quelqu'un toquer à la porte. Est-ce que je peux vous parler? Ouais. Il dit, ce sont vos enfants qui jouent là en bas. Il dit, mais oui. Ah, il dit, écoutez, vous êtes chrétien. Il dit, oui. Il dit, mais c'est incroyable. J'aimerais être comme vous. Vos enfants, même dans leur façon de jouer, eh ben, on a l'impression que c'est des chrétiens. Ils ont un comportement qui parle de Dieu. Et vous savez quoi? Ce couple s'est converti. Ils se sont convertis, ils sont devenus réguliers aussi à l'église. Juste par le bon comportement de leurs enfants. Alors, je fais ce qu'on appelle un raisonnement à plus forte raison. Si déjà des petits-enfants ont un comportement qui peut attirer et donner envie aux gens de devenir chrétiens, à combien plus forte raison nous autres les adultes? Si nous demandons à Dieu cette grâce d'avoir dans notre comportement une attirance, nous soyons un moyen par lequel les gens sont attirés vers Dieu, cherchent Dieu à travers nous. Veillez sur le comportement. Mais aussi, il dit, à la fois la conduite, mais aussi la piété. La piété. La piété, c'est toute la vie intérieure qui finit par apparaître à travers les attitudes. Demandons à Dieu que notre attitude, pas seulement notre comportement, mais notre attitude reflète le Seigneur et donne envie aux gens de venir à Dieu, de s'approcher de Dieu. Certains chrétiens, quand ils se comportent, ils se disent, je me donne comme standard le comportement du monde. C'est-à-dire, si j'arrive dans un milieu où les gens sont un peu grossiers, ben moi je me mets dans le standard de la grossièreté. Si je monte dans un monde où les gens sont un peu, je me mets dans ce standard-là. Mais prions Dieu pour que notre comportement ne dépende pas du milieu dans lequel on se trouve, mais dépend du standard de Dieu. C'est pas facile, mais c'est un choix à faire. Et si on fait ce choix, eh bien, le Seigneur sera glorifié. Ça, c'est le premier conseil. Veillez sur la vie sainte. Deuxième conseil qu'il donne, verset 12, attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, jour à cause duquel les éléments enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Tu peux remonter verset 13 aussi? Mais nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Deuxième conseil, être actif. Nous sommes à la fin des temps. Avez-vous remarqué le nombre de sectes qui ont renoncé à faire quoi que ce soit? Ils savent que c'est la fin des temps, terminé. L'autre là aux États-Unis qui a fini par être arrêté ou je sais pas ce qui s'est passé, lui il a même demandé à ses membres de faire des provisions de nourriture, des trucs. Alors ils avaient amené tout, ils avaient emmagasiné tout. Ils allaient attendre calmement la fin des temps. Ils allaient boire et manger leur bouffe. Ils n'allaient plus rien faire que prier, louer. Et ça s'arrête là et vivre ensemble. Malheureusement, on a constaté qu'il y a eu des viols, des incestes, des machins, des tas de trucs bizarres là-dedans. Notre attente de la fin des temps est une attente active. Nous sommes à l'œuvre. Nous ne croisons pas les bras. nous attendons, en même temps nous hâtons. C'est bien, j'aime bien l'expression. C'est quand même un peu marrant, hein. Tu peux redescendre? Ah, Christophe, je t'aime. Tu montes et tu descends avec moi, c'est bien. Hein, Simon-Pierre? Il est où, Simon-Pierre? C'est un peu comme avec toi, n'est-ce pas? Non, tu, hein, monter, ça veut dire quoi? C'est monter comme ça ou descendre comme ça? Bon, enfin, voilà. T'as compris. C'est l'essentiel. Verset 12. Hâtez et attendez et hâtez. C'est un drôle de mouvement, vous êtes d'accord avec moi, hein? Comment je peux attendre et hâter en même temps? Mais c'est ça le principe même de l'action dans l'attente. Je ne suis pas en train de croiser les bras, mais je suis dans l'attente. Ça, c'est déjà arrivé. Vous pouvez attendre quelqu'un à la maison, allez, admettons, vous avez un rendez-vous, vous attendez quelqu'un à la maison. La personne doit arriver, mais en attendant que la personne arrive, vous faites encore deux, trois petites choses, vous envoyez des mails, vous vous occupez. En attendant que la personne, vous entendez la sonnette, que la personne est arrivée. Mais c'est ça. On hâte, mais en même temps, on attend et en même temps, on hâte l'avènement du jour du Seigneur. Comment est-ce que je le fais? Comment je peux hâter cet événement? Comment je vais le faire? Je vais le faire à travers le témoignage chrétien, à travers l'évangélisation, puisque je sais que Dieu a use de patience, ne voulant que personne ne soit perdu, voulant que les gens soient sauvés. Donc, je suis actif dans l'attente en travaillant à gagner des âmes à Christ. Je fais ce travail pour que justement il y ait la possibilité que beaucoup d'âmes soient gagnées à Christ. Nous avons donc à être conséquents quant à notre façon de vivre et notre façon de travailler. Et donc, ces deux conseils permettent que nous puissions aller de l'avant avec notre perspective de la fin des temps. Et c'est ça que l'apôtre nous invite. Et c'est une conséquence normale, parce que la patience de Dieu doit nous stimuler à œuvrer pour sa gloire. Et il continue en disant, en tirant les conséquences de cela, tu peux maintenant, je n'ose plus dire descendre ou monter, c'est aller dans les versets, voilà, plus haut, voilà. Enfin, on s'entendra quand même. Attends, mais dis-moi quand même pour la forme. Quand j'ai dit monter, c'est quoi? C'est revenir sur les versets avant. Descendre, c'est... Ok, ça va très bien. Comme ça, j'ai entendu, je comprends, ça va. Parce qu'on fait des bêtises ici. Hein. Alors, voyez, le verset 14, il tire un peu la conclusion, cet encouragement à vraiment appliquer les choses qu'on apprend pour que on soit trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Les deux conseils ont aussi un impact sur nous-mêmes, sur notre propre vie. Ces deux conseils vont nous protéger contre le risque que nous soyons perdus par nous-mêmes. Et il rappelle encore que la patience, elle est là parce que le Seigneur veut le salut, hein, il rappelle cela. Et il ajoute un truc, un petit clin d'œil à l'apôtre Paul. Et ça, j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Le petit clin d'œil pour dire notre bien-aimé Paul. Qui se souvient de la relation entre Pierre et Paul? C'était pas toujours joyeux. C'était pas toujours glorieux. J'aime ça, j'aime ce genre de texte. Parce que le voilà à la fin de son parcours, mais le voilà qui dit, à travers des mots, simplement que sur tout mon parcours, je fais la paix avec tous ceux peut-être avec lesquels j'avais des frictions. Je me suis arrangé pour que si un jour je dois arrêter mon ministère, ça soit apaisé avec tous. Mes amis, est-ce que vous entendez ça? Dans l'œuvre de Dieu, il est possible que nous nous frictionnions, que nous blessions. Il est possible. C'est pas impossible. Mais la perspective chrétienne doit être de toujours, plus tard, peut-être dès que c'est possible, plutôt, de pouvoir aplanir les conflits, mettre fin au conflit, de sorte de terminer pacifiquement. J'en parle parce que moi-même, j'ai été en conflit avec un pasteur pendant 12 ans. Des incompréhensions majeures, des choses honteuses, parce que c'est toujours comme ça, hein. On commence à se fâcher, tu as raison, t'as tort, t'as raison. Et finalement, on finit par dire, mais mon frère, il me prend pour qui? Et puis, ça monte. On s'évite, on se croise, on veut pas se parler. Et parfois alors, on dit, mais non, ça va bien, j'ai pas de problème avec lui, c'est lui qui a un problème avec moi. Et puis à la longue, un jour, je suis en face de Dieu, je dis, mais Seigneur, tu m'as comblé dans toute ma vie. Je suis un homme heureux, mais vraiment heureux. Mais il y a cette tâche-là, ce problème-là. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été le voir. J'ai dit, pasteur, il est temps qu'on mette fin à ça. Et merci Seigneur, il a été accessible à cela et nous sommes réconciliés. Visons la paix quand cela est possible. Je trouve que cette attitude de Pierre m'inspire beaucoup, cette exhortation-là. Regardez comment il parle de lui, notre bien-aimé Paul. Il le traite de sage, de super intelligent, de quelqu'un de très compétent, au point qu'il est même incompris par des ignorants. Les gens qui sont mal affermis, ils comprennent pas ce qu'il dit. Quelle admiration derrière. Il admire Paul. C'est une manière de montrer, j'ai complètement fait la paix avec Paul. C'est désormais mon ami. C'est mon frère. Je l'aime et je l'admire. Que le Seigneur nous aide aussi à se dire que voilà, c'est ce que nous devons aussi prendre comme perspective. Dernier encouragement de l'apôtre. Il a donné deux conseils, mais il donne un dernier encouragement. C'est le dernier verset. Ça, c'est pas compliqué, hein. Il nous encourage à croître dans la grâce et la connaissance de Dieu, du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est l'encouragement. Visons la croissance. Ne nous contentons pas de nous dire « je suis déjà bien ». Mais disons-nous, qu'est-ce que je peux encore faire pour aller de l'avant? Où sont mes faiblesses? Où sont les points où je peux encore progresser? Et en faisant ça, vous serez toujours dans l'activité et vous serez toujours en mesure de pouvoir faire, d'avancer avec Dieu. Je voulais juste partager ces petites réflexions. Je vous ai dit, c'est un petit commentaire, un parcours, un commentaire, mais je voulais le partager. Et c'est un encouragement aussi. Continuons à lire la Bible et aimons la Bible et faisons d'elle le livre de notre vie, le guide pour nous. Et en vacances, pourquoi pas, lisons un plus que ce que nous faisons durant l'année. Prions. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole, sa réalité. Merci pour tout ce que tu nous donnes à travers elle. Merci pour la joie, la paix. Merci pour la sagesse. Merci pour l'intelligence. Merci pour aussi les conseils, les exhortations. Merci pour la direction, l'orientation dans nos vies. Merci pour Jésus-Christ qui est dans sa parole, qui nous fait tellement du bien avec sa tendresse, sa bienveillance, sa douceur. Merci pour le Saint-Esprit qui nous parle, qui est un partenaire, qui nous prend et qui nous accompagne et qui nous guide. Merci pour toi, Père, le Père d'une grande famille, d'une multitude. Merci, Seigneur. Conduis-nous encore et toujours dans ta parole, au nom de Jésus. Amen.